Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer.
Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons donc terminer notre cours sur les origines de la monarchie, où nous nous intéressons plus précisément à la fin du règne de David et aussi au début du règne de Salomon. Les deux, comme vous allez le voir, sont liés, parce que nous avons vu jusqu'à 2 Samuel 7, ça se passe bien, Yahvé annonce à David une dynastie éternelle, on a l'impression que tout va vers le mieux. Et petit à petit, les choses se compliquent, notamment à partir de l'affaire David et Bathsheba. À partir de ce moment-là, les choses vont plutôt mal pour David, puisque à la suite de cela, il y a la révolte de son fils Salomon, dont nous n'avons pas trop le temps de parler. Mais c'est ce qu'on appelle souvent l'histoire de la succession de David au trône, où à partir du chapitre 8-9 de 2 Samuel, les choses se compliquent. Et ce que nous allons voir, la naissance de son successeur, se passe aussi de manière assez curieuse, pour ne pas dire scandaleuse, ça dépend évidemment avec quels yeux on lit l'histoire. Si on le lit avec nos yeux à nous, ben, on parlera de meurtre, d'adultère, de viol. Pour les anciens, c'était peut-être un peu moins grave, mais quand même, c'était pas non plus vraiment très positif, puisque David va être sanctionné aussi pour sa faute. Et ce qui est important, évidemment, c'est que Salomon qui arrivera au trône, c'est pas en fait celui qui était dans la lignée chronologique après la mort de Salomon. Donc les choses sont un peu compliquées. Vous connaissez l'histoire de David et Bathsheba. Là, vous avez une représentation de la fin du 19e. Ce qui est intéressant, que pour une fois, elle n'a pas des cheveux longs, parce que souvent, elle a les cheveux longs, donc mais ça, on ne va pas maintenant faire l'histoire de l'art. C'est quand même assez intéressant, cette image. Donc, vous connaissez l'histoire, David est épris, là, il regarde par la fenêtre, il est épris de cette beauté, il va la chercher, il la viole, ensuite, elle a un premier fils, et il faut se débarrasser du mari. Évidemment, nous allons voir comment ça se passe. Il a un premier fils qui doit mourir pour que le deuxième fils, Salomon, puisse venir au monde. Mais, comme nous allons le voir, cette histoire du premier fils qui meurt ne faisait peut-être pas partie de l'histoire originelle. C'est peut-être un ajout et nous allons voir pourquoi. Commençons peut-être avec un motif qui est évidemment derrière l'histoire de David et Bathsheba. Vous avez un motif assez connu, c'est-à-dire que le roi ou le puissant s'approprie la femme d'un de ses sujets. Vous connaissez l'histoire d'Abraham quand il va en Égypte. Et c'est lui-même qui dit à sa femme, il faut que tu dises que tu es ma sœur. Parce qu'autrement, Pharaon va te prendre et moi, il va me faire mourir. Donc il y a déjà cette idée dans ce texte qui a quelques liens avec l'histoire de 2 Samuel 11. Mais il y a aussi un texte égyptien que vous connaissez peut-être un peu moins. C'est un texte qui se trouve dans un papyrus qu'on appelle le papyrus Vendier, d'après le nom d'un grand égyptologue, qu'on connaît depuis seulement 1972, qui date du 6e ou 5e siècle, et qui raconte une histoire assez intéressante, à savoir que le pharaon, Sisobek, c'est des noms en effet inventés, ce ne sont pas des pharaons historiques, donc ce pharaon, en fait, est atteint d'une maladie mortelle. Et ses mages, ses magiciens, lui disent « Il te reste 7 jours. 7 jours pour vivre. » Retenez déjà 7 jours. 7 jours pour vivre. Et puis, le seul espoir, apparemment, réside dans un général, Mériré, qui, en effet, pour que le roi puisse vivre, doit sacrifier sa propre vie pour prolonger la vie du roi. Ce général, brave, accepte de descendre vers les morts, mais il demande au roi quand même de prendre soin de sa femme et de ne pas la chasser de sa maison et surtout de les préserver des regards avides d'autres princes de la cour. le pharaon accepte et Mériré descend aux enfers et parvient à obtenir du dieu Osiris des années supplémentaires pour la vie du pharaon. Alors, il apprend par la déesse Hathor que ce pharaon, justement, poussé par ses magiciens, a fait de la femme de Mériré sa reine. Il a donné la maison à quelqu'un d'autre et il a tué le fils de Mériré. Alors Mériré façonne une sorte de golem, une sorte d'homme d'argile, de terre, qu'il en va hanter le roi pour exiger que le magicien soit tué, jeté dans un four brûlant. Et le roi n'obéit pas de suite. Ce golem, cette figure de terre, continue à le hanter. Et malheureusement, on ne connaît pas tout à fait la fin parce que c'est corrompu. Disons, on n'a pas le papyrus dans son entièreté. Et on peut imaginer que Mériré est revenu du monde des morts. Alors, si vous entendez cette histoire, vous comparez avec l'histoire de David et Bathsheba, il y a quand même des parallèles, non ? On peut dire que c'est des histoires très différentes. C'est vrai, mais il y a quand même des motifs qui sont parallèles. Par exemple, le roi en tant qu'adultère. David et le pharaon sont séduits par la beauté de la femme, d'un de leurs sujets, et ils la prennent pour eux-mêmes. L'adultère a lieu pendant l'absence du mari. Donc Uri, le mari de Bathsheba, est parti à la guerre pour son roi, et Mériré est descendu aux morts également pour son roi. Donc les maris de deux femmes meurent pour leur roi. Les deux récits comportent le motif de la mort par substitution également, puisque en 2 Samuel 12, l'enfant de David et Bathsheba ou Bathsheba doit mourir à la place de David et Mériré doit mourir à la place du roi. Et les 7 jours dont je vous ai déjà parlé, donc le pharaon lui reste 7 jours à vivre, et puis l'enfant qui est né de cette union adultère, il meurt après 7 jours de maladie. Donc on peut se poser la question, s'il y a un lien entre ces deux récits, on ne sait pas comment ce récit égyptien a été connu, mais ce n'est pas impossible, on peut dire aussi que c'est un motif général, mais là les parallèles sont quand même assez intéressants. Alors, posons la prochaine question. Pourquoi est-ce qu'on a raconté 1 Samuel 11 à 12 ? On aurait pu se contenter de dire, voilà, David avait une femme qui s'appelle Bathsheba, et avec elle, il avait un fils appelé Salomon. Donc, cette histoire un peu bizarre a quand même pour but, d'une certaine manière, de donner une apologie pour Salomon en le présentant comme fils de David. Il y a des exégètes comme Baruch Halpern, vous avez les références, ou Ernst Axel Knauf, qui disent en effet que toute cette histoire est inventée de toutes pièces pour montrer que Salomon, qui en fait est le fils de Uri, est quand même le fils de David. Donc l'idée, c'est qu'historiquement, il y aura eu une sorte de putsch de Salomon qui aura pris la royauté. Et pour en fait le légitimer, on a dit oui, il est quand même fils de David, même si l'histoire se passait d'une manière un peu scabreuse. Donc c'est difficile à démontrer, mais il est clair qu'on peut lire le texte quand même qui débouche sur la naissance de Salomon comme une sorte d'apologie de ce dernier. Alors commençons avec l'histoire. Sur le soir, David se leva de son lit. Il alla se promener sur la terrasse de la maison du roi. Du haut de la terrasse, il aperçut une femme qui se peignait. La femme était très belle. David envoya donc des messagers pour se renseigner sur cette femme et on dit, n'est-ce pas Bathsheba, la fille d'Eliam, la fille de Uri le Hittite ? David envoya des émissaires, il la prit, elle vint chez lui, ou selon certains textes de la Septante, qui sont probablement plus anciens, il vint en elle, donc vraiment description du viol, il vint en elle et il coucha avec elle, elle venait de se sanctifier de son impureté, et elle rentra chez elle. C'est comme ça que l'histoire commence, très brève, pas de sentiments, rien du tout. Donc elle est belle, je la veux et je la prends. Et donc on ne dit pas comment ça s'est passé exactement, est-ce que David a fait une sieste, qu'est-ce qu'il fait. Donc rappelez-vous aussi que cette histoire est insérée dans un contexte où l'armée, Uri, le Hittite, ils sont en fait en guerre contre les Ammonites et David, pour des raisons pas très claires, il reste à Jérusalem. Un roi qui se respecte, normalement, il va en guerre avec son armée. Et là, on lui dit, il est resté à Jérusalem. Et donc, il s'ennuie, il se promène, il regarde, il voit cette femme. Donc, elle se baignait, on ne sait pas non plus où, est-ce que c'est dans la cour, comment. Pourquoi est-ce qu'elle se baignait, on ne le sait pas non plus. Il y a un glossateur qui a ajouté, elle venait de se sanctifier de son impureté. Donc ça, c'est probablement une allusion qu'elle se lave à la fin de ses règles. Donc c'est possible. On a dit, il faut expliquer. Donc c'est aussi une manière de montrer que, si le roi couche avec elle, elle pourrait être enceinte. Et c'est exactement ce qui va arriver. Donc cette femme, Bathsheba, le nom n'est pas souvent utilisé. On parle souvent toujours de la femme. Et elle est caractérisée en fait de trois manières. D'abord par son nom, Bathsheba, Bethsabée, souvent dans les traductions. Alors, fille du serment, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est probablement plutôt fille de l'abondance. Donc, si on vocalise non pas avec un che, avec un shin, mais avec un sin. Alors, un sin signifie l'abondance. Certaines pensent aussi que c'est un nom hittite, mais ce n'est pas, à mon avis, très, très satisfaisant. On dit que c'est un nom hittite parce que son mari est un hittite. Mais déjà, qu'est-ce que ça veut dire que son mari est un hittite? J'y arriverai tout de suite. D'abord, on présente son père, ce qui est assez rare aussi pour les femmes qu'on présente le père, Eliam, qui apparaît en fait au chapitre 23 comme un des 30 héros de David. Donc c'est quelqu'un, en effet, qui rend des services à David. Et il est présenté comme le fils de Ahithophel, qui apparaît en 2 Samuel 15, donc au moment de la révolte d'Absalom, comme un conseiller de David, et qui prend parti pour ce dernier. Et finalement, son mari, Uri, qui est également mentionné dans cette liste des 30 héros, et dont le nom signifie « Yahvé et ma lumière ». Donc, Uria, en fait, Uria en hébreu. Donc, malgré le fait qu'on dit que c'est un hittite, on le présente quand même comme un yaviste, puisqu'elle porte un nom yaviste. Et il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on dit quand on dit hittite? Parce que hittite, c'est soit l'Anatolie, ou chez les Babyloniens, quand ils parlent du pays de Khati, en fait, c'est simplement tout le Proche-Orient ancien, disons plutôt le Levant. Donc, c'est peut-être pas si précis que ça. C'est peut-être quelqu'un qui est cananéen, pas israélite, mais qui, en effet, est au service de David. Et donc, on a spéculé que Bathsheba faisait peut-être partie d'une famille noble de Jérusalem qui était avec son mari et son père et grand-père liés à David. Alors, maintenant, si vous regardez les commentaires sur ce texte, il y a tout un débat, qui, à mon avis, est un peu ridicule, mais il y a tout un débat si c'est un viol ou pas. Parce qu'on dit, Bathsheba ne dit rien. Donc Bathsheba aura provoqué David. Est-ce que c'est marqué dans le texte? Mais c'est un peu le même débat qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos sociétés autour de ce qu'on appelle le consentement. C'est exactement ça. Et on le retrouve déjà dans les commentaires autour de cette histoire. Les rabbins sont aussi très ennuyés avec cette histoire, évidemment, vous imaginez. Mais à mon avis, si vous prenez la description de l'acte, je pense qu'il y a peu de doute. Il a pris, il vint en elle, il coucha avec elle, et elle rentra chez elle. Hop. Voilà, donc je pense que c'est quand même décrit comme un viol. Et maintenant, David est embêté. Il faut qu'il cache sa paternité. Donc la femme devint enceinte, elle envoya vers David, et elle déclara, « Je suis enceinte. » David envoya dire à Joab, vous vous souvenez, c'est son général qui va aussi mal finir au début du Livre des Rois, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Joab envoya donc Uri à David, Uri arriva près de lui. David le demanda comment allait Joab, le peuple, la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends chez toi, lave-toi tes jambes. » Uri sort chez le roi. Et il était suivi d'un présent du roi. Donc vous avez compris la stratégie. Il le fait venir du champ de bataille. Donc là aussi, l'histoire est très ramassée parce qu'en fait, il est à Rabat Amon, ce qui fait au moins 3 jours de marche s'il faut aller de Rabat Amon jusqu'à Jérusalem. Mais dans l'histoire, tout ça est condensé, en fait. Donc il arrive tout de suite, et puis David, quand il dit « va te laver les jambes », c'est un euphémisme, en fait, « va aller coucher avec ta femme », puisque les pieds ou les jambes, reglaïm, sont souvent utilisés comme euphémisme pour les organes sexuels. Donc c'est voilà l'invitation que David donne à son... à son soldat, et en absence évidemment de test DNA, personne n'aura douté que le fils qui pourra naître de cette union serait le fils de Uri. Mais ça ne marche pas comme ça. Uri se coucha. Alors au début, ça, on peut entendre, il se coucha, parce qu'en hébreu, vous avez d'abord le verbe, il se coucha, donc le public peut se dire, voilà, il va se coucher. Mais il se coucha à la porte de la maison du roi, avec tous les serviteurs du Seigneur, et il ne descend pas dans sa propre maison. On vint dire à David, Uri n'est pas descendu chez lui. David dit à Uri, n'arrives-tu pas d'un long chemin? Pourquoi n'es-tu pas descendu chez toi? Uri dit à David, l'arche, Israël et Juda habitent dans les huttes, sous côte. Mon Seigneur, Joab et les serviteurs de mon Seigneur campent en rase campagne, et moi j'irai chez moi, manger, boire et coucher avec ma femme. Par ta vie, par ta propre vie, double serment assez rare, je ne ferai pas cela. David dit à Uri, reste ici encore, aujourd'hui et demain je te renverrai. Uri reste donc à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'appela, il mangea en sa présence, il but et il l'enivra. Uri sortait chez lui pour aller se coucher, encore une fois, coucher sur son lit même. Mais ce n'est pas le lit avec sa femme, c'est avec ses serviteurs de son Seigneur. Il ne descendit pas chez lui. Donc il reste, donc le palais est en haut, donc il faut imaginer que les autres maisons sont plus bas. Donc il explique à David, en effet, qu'il ne peut pas accepter des privilèges si l'arche et l'armée habitent dans des huttes, donc des sous-côtes. C'est un peu curieuse comme expression. Est-ce que ça veut dire, en effet, que l'arche n'a pas encore une demeure forte, ferme? Ou est-ce que ça veut dire, mais ce n'est pas raconté, que l'arche aurait été amenée, en effet, sur le champ de bataille? C'est aussi une possibilité, en fait. Hein? Et donc là, vous voyez, il est vraiment présenté comme un bon Yahviste, puisqu'il se réfère à l'arche de Yahvé. Et donc, il fait comme un bon soldat doit faire. Mais on peut aussi se poser, et c'est ça ce qui est l'intérêt de cette histoire, est-ce que Uri se doutait de quelque chose? On ne dit pas, donc on dit très peu de choses dans cette histoire. Peut-être Uri a senti quelque chose, dit ben « non, non, on ne va pas tomber dans le piège, je n'y vais pas ». Et c'est possible. Alors parfois on a dit aussi que peut-être en situation de guerre, il y a l'abstinence, puisqu'on a 1 Samuel 21, David, dans une situation de guerre, dit « nous n'avons pas eu de relation avec des femmes comme toujours quand je pars en campagne ». Donc c'est peut-être aussi ce qui est derrière ce serment de Uri. Mais une fois de plus, c'est le lecteur ou les auditeurs qui peuvent en effet se faire leur explication. C'est un texte qui est vraiment très, très, très sobre, qui laisse beaucoup de pistes d'explication ouvertes. Donc David tente une dernière chose. Il va l'inviter chez lui. Donc Uri avait dit « je ne mangerai pas, je ne boirai pas ». Donc il l'invite quand même à manger et à boire. Donc David mange et, pardon, Uri mange et boit, mais il ne va pas coucher. Voilà, donc là vous avez un magnifique résumé de l'histoire dans la Bible des croisades du 3e siècle. Vous voyez d'abord David qui va à Bathsheba, qui envoie un serviteur. Il est au lit, ça c'est assez rare, David au lit avec Bathsheba. Et ensuite, donc, il fait venir Uri pour en effet le mettre dans le lit de Bathsheba. Donc ça ne marche pas. Et là maintenant, ça devient meurtrier, puisque le lendemain, David écrivait une lettre à Joab et l'envoya par Uri. Il avait écrit dans cette lettre, « Mettez Uri en première ligne au plus fort de la bataille, puis vous reculerez derrière lui, il sera atteint et il mourra. » Il arriva que Joab assiégea la ville, qu'il plaça donc Uri à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes aguerris. Les gens de la ville firent une sortie et attaquèrent Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et à la fin, et Uri le Hittite mourut lui aussi. Donc là, David a en effet recours à une ruse perfide. Il donne à Uri une lettre. En fait, les attestations de correspondance militaire, on en a, dans l'Israël ancien, on a des lettres, mais en fait, c'est des tessons. C'est des ostracas, en fait. C'est des ostracas. Donc, soit c'est déjà un texte très récent où on imagine plutôt des petits rouleaux, ou alors il faut imaginer que Uri ne sait pas lire et que, en fait, il ne peut pas voir ce qui est écrit sur cet ostraca, parce que l'ostraca, vous ne l'enveloppez pas. Vous écrivez quelques lignes. Donc, mais là, de nouveau, ce n'est pas tellement l'historicité qui intéresse notre narrateur. Alors là, nous avons un autre thème qui est le thème de ce qu'on appelle la lettre de mort. La lettre de mort, qu'est-ce que c'est ? On trouve ça dans de nombreux contes où, en effet, quelqu'un doit porter une lettre à quelqu'un d'autre et dans cette lettre, en fait, on trouve sa propre condamnation à mort. Dans la plupart des cas, le porteur est sauvé et tout se termine bien et le malfaiteur est souvent sanctionné. Mais ici, c'est différent. Alors, vous avez là aussi des parallèles assez intéressants. Je ne sais pas si vous connaissez la légende de Bellérophon qui se trouve dans l'Iliade. Dans l'Iliade, ça c'est tout à fait comparable à ce que nous avons dans notre histoire, où en effet, un roi, Proétos, veut tuer ce Bellérophon qui a pris l'asile chez lui. Bon, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais celui-là, donc ce Bellérophon, a refusé à coucher avec la femme de ce roi. Alors là, par contre, contrairement à l'histoire de Bathsheba, cette femme lui a fait des avances. Ça, c'est un peu comme l'histoire biblique de Joseph. Donc, la femme a fait des avances, il a dit non. Et la femme est racontée à son mari que cet hôte aurait voulu coucher avec elle. Et donc, du coup, le roi ne voulait pas tuer Bellérophon parce qu'il ne va pas rompre son serment d'hospitalité, mais il l'envoya en Lycie avec des tablettes où il avait tracé des signes de mort afin qu'il les remît à son beau-père et que celui-ci le tua. Donc, c'est la même chose, donc il l'envoie chez son beau-père, avec aussi un message « Quand il arrive, tu le tueras ». Alors, ça se passe aussi pas tout à fait comme ça. Bellérophon arrive donc en Lycie. Quand il fut arrivé, le roi de la Grande Lycie le reçut avec honneur, lui fut hospitalier pendant 9 jours. Et le 10e jour, il l'interrogea, il demanda à voir les signes envoyés par son gendre. Et quand il les eut vus, il ordonna d'abord de tuer toutes sortes d'ennemis, la chimère, le peuple des Solim, les Amazones viriles, et évidemment, il va réussir toutes ces tâches. Et après, il y tenda aussi un piège rusé, en choisissant, en plaçant une embuscade le plus brave guerrier. Ça fait déjà penser plus encore à notre histoire de 2 Samuel 11. Et finalement, Bellérophon le tua tous et le roi connut alors que cet homme était de la race illustre d'un dieu. Il le retint et lui donna sa fille, la moitié de sa domination royale. Donc là, vous avez aussi l'idée que quelqu'un veut se débarrasser de quelqu'un. On voit cette personne avec un message, mais contrairement à ce qui se passe en 2 Samuel 11, Bellérophon devient en fait le beau-fils de son hôte. Donc, là, vous avez une représentation qui est intéressante parce que vous voyez que ce n'est pas David qui écrit la lettre, et donc il a un scribe, ce qui correspond évidemment à une réalité, et là, un scribe qui, en effet, lui écrit cette lettre qu'il ensuite remet à Joab. Donc ça, c'est une autre question sur qui savait lire et écrire au 10e siècle, probablement pas le roi. Au 7e siècle, c'est possible, donc peut-être ce texte date de cette époque-là ou peut-être même encore un peu plus tard. Donc, de nouveau, l'ordre qui donne à Joab C'est pas très clair non plus comment il peut, en effet, mettre Uri à un endroit et faire reculer tous les autres. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire, Joab va pas faire comme ça. Mais en effet, de nouveau, la mort est rapidement racontée, contrairement à Flavius Joseph qui donne une description très, très détaillée. Donc, Joab, donc, informa David de tout ce qui s'était passé durant le combat. Il donna au messager l'ordre suivant. Quand tu auras fini de raconter au roi tout ce qui s'est passé durant le combat, si le roi se met en colère et qu'il te dise « Pourquoi vous vous êtes approché de la ville pour le combat ? Ne saviez-vous pas que qu'on tire du haut du rempart ? Qui a donc frappé Abimelech, fils de Yerubbaal ? N'est-ce pas une femme qui lui a lancé une meule du haut du rempart ?» Donc là, on connaît déjà très bien la Bible parce que c'est une histoire qui se trouve dans le livre de Juges, donc ça, c'est certainement un ajout. Pourquoi vous êtes approché du rempart? Tu lui diras, ton serviteur Uri le Hittite est mort lui aussi. Donc, ce qui est important, c'est que Joab prévoit une sorte de colère de David et il met dans la bouche une comparaison avec Abimelech. Le messager parti vient rapporter à David tout ce dont Joab l'avait chargé. Le messager dit à David, ces gens étaient plus forts que nous, ils ont fait une sortie dans notre direction en rase campagne, mais nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les tireurs ont alors tiré du haut du rempart sur tes serviteurs, ils moururent parmi les serviteurs du roi. La Septante et la Vetus Latinum, la vieille latine, précise environ 18 hommes, et ton serviteur, Uri le Hittite, est mort aussi. David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab, ne prends pas trop mal cette affaire, l'épée dévore d'une façon ou d'une autre, renforce ton attaque contre la ville et renverse-la, réconforte-le ainsi. Donc David ne se met pas en colère, au contraire, il est content, il dit, c'est comme ça la guerre, il faut vivre avec, et... Donc, le lecteur, l'auditeur doit comprendre ça quand même comme une réponse cynique qui attribue la mort d'Uri, en fait, aux aléas de la guerre. Et c'est ainsi que naît le premier fils. La femme d'Uri a appris que Uri, son mari, était mort. Donc, elle est qualifiée la femme d'Uri, a appris que Uri, son mari, était mort. Elle se lamenta sur son mari. Quand le deuil fut passé, David la fit chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Mais ce qu'avait fait David déplut à Yahvé. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'est-ce qu'on a parlé de Yahvé dans cette histoire? Pas du tout. Tout à la fin, quand c'est trop tard, ça déplut à Yahvé. Donc, souvent, on pense en effet que cette notice est un ajout, et que l'histoire continue en fait avec la naissance d'un fils, mais pas d'un premier fils qui doit naître, mais de Salomon. Donc l'histoire originale aurait été que le fils qui naît, c'est Salomon. Et pourquoi est-ce qu'on aura rajouté en fait toute cette histoire du premier fils qui doit mourir? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord, si le fils qui naît, c'est Salomon, c'est un fils qui naît d'un adultère ou d'un viol. Maintenant, dans l'histoire, c'est un peu amadoué, puisque, en fait, Salomon naît seulement au moment où Bathsheba est devenue la femme légitime de David. Ça, c'est la première chose. On veut aussi insister quand même, en rajoutant 2 Samuel 12, que Yahvé a quand même sanctionné David pour ce qu'il a fait, ce qui n'était peut-être pas le cas dans la première histoire, et que David lui-même aussi s'est converti de son péché, de sa faute. Et donc, on pourra imaginer que l'histoire s'est terminée comme ça, quand le deuil fut passé, David la fit chercher et l'a recueillie dans sa maison. Elle devient sa femme et lui enfanta un fils. Elle appela son nom Salomon. C'était probablement comme ça que l'histoire s'est terminée au début. Donc toute cette histoire du fils qui devait naître. D'ailleurs, il y a aussi une particularité. Comment on peut... Disons, c'est un argument complémentaire pour dire que c'est un ajout. Parce que ce fils qui doit mourir, il s'appelle comment? Il n'a pas de nom. Et quand est-ce que dans la Bible on donne un nom? Tout de suite, dans la Bible, dès que quelqu'un naît, dans tous les récits de naissance, vous avez des récits de naissance, un enfant naît, et on dit elle, donc là c'est une autre histoire qui sera intéressée une fois à analyser, parfois c'est la mère, parfois c'est le père, donc c'est pas évident de savoir est-ce qu'il y a des règles, pourquoi parfois c'est le père, parfois c'est la mère, mais peu importe, mais chaque fois que vous avez, qu'on vous raconte la naissance d'un fils, on vous donne le nom de ce fils. Seule grande exception, c'est Moïse. Parce que Moïse, il faut qu'il reçoive son nom de la fille du Pharaon, puisque c'est un nom égyptien. Donc il faut attendre qu'il puisse être adopté par la fille du Pharaon. Mais le fait que ce fils qui va mourir n'a pas de nom est un indice supplémentaire, en effet, pour qu'on puisse dire toute cette histoire, en fait, du premier fils qui va mourir est un ajout. Donc, le nom de Salomon, on a déjà parlé au premier cours, donc je ne vais pas tout rappeler, simplement pour dire que c'est la racine Shin Lamed Mem, qui peut signifier être complet, être en paix. Donc, l'explication traditionnelle, c'est lui qui fait la paix. Ce n'est pas forcément le cas, parce que ça peut aussi signifier, en fait, qu'il s'agit d'un nom de substitution, soit plénitude, à savoir que le mort est présent dans son enfant, c'est-à-dire c'est un nom qu'on donne à quelqu'un dont le père est décédé, ou alors, comme l'a suggéré Timo Vaiola, ça peut signifier simplement remplacement ou ersatz. Donc, ersatz pour Uri, le mari qu'elle a perdu. Donc ça, c'est une possibilité. Et donc, du coup, un rédacteur a dit, mais il faut quand même qu'on précise certaines choses, comme je vous ai dit, que Salomon n'est pas né d'une adultère, que David a montré quand même des regrets, que Yahvé est intervenu, c'est surtout ça ce qui est intéressant dans cette histoire, parce que dans l'histoire ancienne, Yahvé n'intervient pas du tout. Yahvé n'intervient pas du tout. Et en 2 Samuel 12, vous avez toute cette histoire qu'on n'a pas le temps maintenant d'aller raconter en détail. Donc Nathan, le prophète qui avait annoncé à David la dynastie éternelle, va venir vers David avec une parabole de la brebis du pauvre qui est pris par un riche. Je ne sais pas si vous connaissez la parabole, donc un homme pauvre a vu une seule brebis qui lui est prise par un riche qui ne veut pas, en effet, tuer un de ses brebis pour, en effet, accueillir des autres qui arrivent chez lui. Et David se met en colère, disant, mais c'est insupportable, il faut tuer ce type. Et la réponse de Nathan, mais ce type, c'est toi. Hein? Et donc, en fait, à David, on annonce, en fait, une condamnation même à mort. Hein? Et David fait alors une confession de péché, à la suite desquelles et sa sanction est modifiée. David dit à Nathan, j'ai péché contre Yahvé. Nathan dit, Yahvé a laissé passer sur ton péché. Donc ça va vite, hein? J'ai péché, bon c'est pas grave, Yahvé, d'accord. Tu ne mourras pas, mais puisque dans cette affaire tu as gravement outragé Yahvé, certains manuscrits disent plutôt ses ennemis, donc c'est probablement évidemment une correction dogmatique, on ne peut pas outrager Yahvé, surtout David. Le fils qui était né mourrait certainement, et Nathan s'en alla chez lui. Donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure dans la parallèle égyptienne, c'est une mort par substitution. En fait, l'enfant né maintenant de cette union va mourir en fait, en substitution pour David. Et Yahvé frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, il tomba malade. David eut recours à Dieu, ou au Dieu, et à Elohim, ça peut être des divinités. Donc on peut imaginer que, un peu comme les théraphimes, on l'a vu avec la nécromancienne. Il jeûna et quand il rentra chez lui pour la nuit, il coucha par terre. Les anciens de la maison se penchent à son lieu pour le relever, mais il refusa, ne mangea pas avec eux. Le septième jour, l'enfant meurt, donc on ne sait pas quel âge l'enfant avait. Et donc, apparemment, il est tombé malade dès sa naissance, donc peut-être qu'il n'avait que sept jours. Le texte ne nous le dit pas. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Ils se disaient en effet, « Voici, lorsque l'enfant était vivant, nous lui avons parlé, il ne nous a pas écoutés. Et comment lui dire, l'enfant est mort, il fera quelque chose de mal ?» David vit que ses serviteurs chuchotaient entre eux et comprit que l'enfant était mort. David dit alors à ses serviteurs, « L'enfant est-il mort ?» Ils dirent, « Il est mort. » Donc, David, en fait, se met à jeûner, à se coucher par terre, un peu comme on fait dans une situation de deuil, ce qu'on appelle souvent des Selbstminderungsriten, des rites d'abaissement. Donc, on se prépare comme quelqu'un qui est presque en train de mourir. Et il est possible que l'enfant, en effet, meure après sept jours. Donc, on ne sait pas à partir de quel moment, en fait, cet enfant avait été malade. Et alors, ce qui est très étonnant, une fois que l'enfant est mort, David se leva de la terre, se baigna, se parfuma, se changea de vêtements. Puis il entra dans la maison de Yahvé, il se prosterna, il rentra chez lui, il demanda qu'on lui servit à manger, il mangea. Ses serviteurs le dirent, qu'est-ce que tu fais là? Quand l'enfant était encore en vie, tu jeûnas, tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te levais, tu as mangé. Et il dit, quand l'enfant était encore en vie, je jeûnais et je pleurais parce que je me disais, qui sait si Yahvé aura pitié de moi et que l'enfant vivra? Et maintenant, puisqu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Est-ce que je peux encore le faire revenir? C'est moi qui suis en route vers lui. Lui, il ne reviendra pas vers moi. Donc c'est assez moderne, en fait, David a dit. Mais à quoi ça sert de jeûner? Une fois l'enfant est mort, il n'y a plus rien à faire. Donc l'idée, c'est que voilà, David, en fait, dorénavant, il va considérer qu'un jour, il va retrouver son enfant dans ce jour de mort. Mais il n'y a rien à faire et donc plus besoin de jeûner. Peut-être même une petite critique de certains rites de deuil, puisque David, en fait, fait juste le contraire. Et ce qui est dit un peu en passant, c'est quand même assez intéressant, on dit « David alla dans la maison de Yahvé ». Ça ne vous étonne pas? Parce que maison de Yahvé, c'est quoi? C'est le temple. Au moins, c'est un sanctuaire de Yahvé. Alors, deux possibilités. Soit c'est un auteur un peu oublieux qui a oublié que quand il écrit son histoire, peut-être au 7e, 6e siècle, qu'à l'époque de David, le temple n'a pas encore existé. Ou alors, c'est un souvenir qu'avant que Salomon, soi-disant, construise le temple, il y avait déjà un sanctuaire que Salomon aurait peut-être rénové, restauré en faisant autre chose. C'est peut-être ça. Et donc, on termine avec la naissance de Salomon, qui maintenant arrive comme un deuxième fils. David consola Bethsabée, sa femme. Il alla vers elle, il coucha avec elle. Elle devint enceinte, selon la Septante. Elle enfanta un fils. Et alors là aussi, on ne sait pas qui l'appelle. Qui donne le nom? Il ou elle? Donc, dans le texte consonantique, c'est il. Dans la vocalisation des Masorètes, c'est elle. Donc, je pense là, peut-être les Masorètes ont raison. Elle l'appela du nom de Salomon, surtout si Salomon, comme je viens de dire, a ce nom, a cette signification de substitut, d'ersatz. Donc, ça fait plus de sens que c'est Bathsheba qui l'appelle comme ça. Et on apprend qu'il, en fait, reçoit un deuxième nom, puisque maintenant, on a un commentaire par le rédacteur qui a ajouté toute cette histoire. Yahvé l'aima et l'envoya dire par l'entremise du prophète Nathan. Il appela son nom Yedidia, aimé de Yahvé, à cause de Yahvé. Donc là, c'est le seul texte où on donne un autre nom encore à Salomon. Yedidia. Donc, bien aimé de Yahvé. Alors, c'est intéressant, donc, puisque c'est la même racine que David. Donc, David, vous vous souvenez, c'est la racine d'Aled Vav Daled, le bien aimé, le chéri. Et Yedidia, bah, c'est aussi le dieu d'Alet, donc le bien-aimé de Yahvé. Alors pourquoi est-ce qu'on donne ce nom? Alors certains ont dit que c'était le nom de trône, comme les pharaons, quand ils arrivaient au trône, ils avaient un autre nom. Mais comme c'est utilisé une seule fois, je dirais plutôt que c'est inventé pour les besoins de la cause. D'abord pour dire que Yahvé l'aime, parce que quand on regarde après comment Salomon arrive au pouvoir, on peut aussi se poser des questions. Et là, dès le début, on va insister sur le fait que Yahvé l'aime, et aussi sur le fait que ben, il est très lié à David, parce qu'il porte en fait le même nom. Donc c'est une autre manière de renforcer le lien entre Salomon et David. Hein. Ils ont des noms en fait avec la même racine. Et donc après, les choses... en fait, cette histoire, elle va continuer au début du premier livre de Rois. Entre-temps, on va nous parler de la révolte d'Absalom. Absalom qui, en fait, et surtout, mais ce n'est pas la seule raison, ça commence de nouveau après 2 Samuel 11, ou 2 Samuel 13, il y a un autre viol qui intervient dans la maison de David. Le viol de sa fille Tamar par son demi-frère Amnon, qui ensuite va être vengé par Absalom. Donc c'est des histoires assez horribles. Et puis Absalom fait une révolte contre David, qui amène David à quitter Jérusalem et se réfugier dans le nord. Hein, et David va s'exiler, il va s'installer à Mahanaïm, ici. Et on va raconter, une fois qu'il est installé à Mahanaïm, la mort d'Absalom, le retour de David à Jérusalem, qui suivit d'une autre révolte pendant ce retour d'un Benjaminite qui est tout au haut. Ça, c'est aussi un peu curieux au niveau géographique, mais nous n'allons pas entrer dans le détail. Et David revient à Jérusalem. À la fin du livre de Samuel, nous avons une sorte d'annexe, parce que le début de 1 roi 1 va continuer après le chapitre 19. Là, nous avons... trois chapitres, en fait, ou quatre chapitres, qui sont construits en chiasme. Donc, c'est encadré par deux histoires de châtiment divin, d'un fléau qui intervient chaque fois. Et ce qui est surtout intéressant, c'est la dernière histoire en 2 Samuel 24. C'est un châtiment divin qui intervient suite à un recensement de David, qui veut en effet savoir la force de son peuple, alors que c'est pas. Donc, Joab ne veut pas le faire. Mais c'est Yahvé qui lui donne l'idée. Mais en même temps, il le punit pour ça. Et donc, il y a la peste qui arrive, etc. Vous pourrez lire ça. Et à la suite de ça, en fait, David va trouver, c'est une manière de relier David au temple, puisqu'il va trouver l'emplacement du temple de Jérusalem. Ensuite, vous avez deux listes de héros de David, et au milieu, deux textes poétiques, un psaume, qui correspond au psaume 18, et les dernières paroles de David. Donc ces histoires scabreuses de David, Bathsheba, etc., bah, dans le livre des chroniques dont Sophie Rameau va nous parler après dans le séminaire, bah, ces histoires-là, les chroniques ne les aiment pas, donc ils ne vont pas nous en parler. Hein. Et donc on arrive en effet à l'arrivée au pouvoir de Salomon. Donc nous avons déjà vu avec le séminaire d'Emmanuel Pastor que David est un roi, pardon, que Salomon est un roi très ambigu. D'un côté, c'est le plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse, mais en même temps, c'est aussi le roi qui épouse de nombreuses femmes qui vénèrent d'autres dieux, qui détournent son cœur. Il accepte des lieux de culte en dehors de Jérusalem. Il soumet son peuple à la corvée et il est responsable de l'éclatement du Royaume-Uni, si on peut le faire comme ça. Donc c'est vraiment un roi très très ambigu. Et comment il faut comprendre ça? Alors, vous avez deux possibilités. Vous pouvez faire une approche synchronique, à savoir, en fait, c'est un auteur, donc c'est le livre de Cazot, Saül David Salomon, donc ça c'est une lecture synchronique, il dit en fait toutes les contradictions, etc., tout ça c'est voulu par le même auteur qui veut montrer en fait l'ambiguïté de l'institution de la royauté. Ça ne marche pas toujours si bien que ça, je pense. Donc c'est probablement mieux d'imaginer qu'il y a plusieurs strates dans ce texte, et il y a des strates pro-Salomon, des strates anti-Salomon, comme on l'a aussi dans l'histoire de David. Et de toutes les manières, c'est peut-être encore plus important que dans les livres de Samuel, il y a des importantes différences textuelles entre les textes grecs et le texte hébreu. Et donc peu importe si on fait une analyse synchronique ou une analyse diachronique, il faut en effet faire attention à ces différences. Souvent, le texte grec, je pense Emmanuel Pastor nous l'a dit, peut refléter un texte plus ancien ou un texte différent, au moins, hébreu du texte massorétique. Alors, est-ce que le roi Salomon est une pure invention? Mais il y a des gens qui ont pensé ça. Alors, ce qui est clair, c'est que ce qu'on appelle l'empire salomonien qui va de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte, alors là, on peut vraiment dire que c'est une invention. Donc là, il n'y a aucun problème. Ce qui est plus vraisemblable, c'est qu'il y a une sorte de noyau de chefferie ou de royauté, si on veut, qui se passe un peu entre Sichem et Hébron. Alors, est-ce que c'est vraiment une royauté unie? Est-ce que c'est une royauté qui est contrôlée par, disons, qui est gouvernée depuis Jérusalem et qui a en fait des clans vassaux autour? Ça, c'est possible. Mais il est clair que Salomon, tel qu'on nous le décrit, n'a pas régné de l'Euphrate jusqu'à l'Égypte. Donc il y a toutes sortes d'explications. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je veux juste vous rappeler qu'on avait en fait des grandes constructions à Hatzor, à Megiddo, à Gezer, qu'on avait souvent utilisées pour montrer la grandeur de l'empire salomonien, et qui probablement, c'est encore un débat des archéologues, mais si on suit l'école de Tel Aviv, c'est plutôt en effet un siècle plus tard, donc ça reflétera plutôt l'époque du roi Omri. On sera plutôt au 9e qu'au 10e siècle à ce moment-là. Donc, on peut aussi rappeler que les relations, par exemple, de Salomon avec les Phéniciens, il y a un dénommé Hiram qui vient lui construire le temple, pas tout à fait, mais le livrer. Le seul Hiram qu'on connaît, il date de la fin du 8e siècle. On trouve un Hiramu dans les annales d'un roi assyrien. Donc on est là aussi dans un contexte plus tard, et il est donc possible que la première version de l'histoire de Salomon date plutôt de l'époque néo-assyrienne, 7e siècle. Nadav Naaman a dit ce sont les deutéronomistes qui ont construit le roi Salomon. Bon, il ne dit pas que le roi Salomon n'a pas existé, mais il dit la première histoire qu'on a de Salomon, ça vient de cette époque-là. Donc on peut toujours se poser la question, est-ce qu'il y a des sources plus anciennes? En 1 roi 11, à la fin du règne de Salomon, on parle des annales de Salomon, Sefer Divrei Shlomo. Est-ce que ça existait? Ou est-ce que c'est une invention? Ça, c'est difficile, ça va. Il y a des listes, peut-être, à 1 roi 4, d'autant plus que la Septante conserve des listes un peu différentes que ceux du texte massorétique. Il y a peut-être des traces anciennes aussi dans l'histoire de la construction du temple. Donc, je ne vais pas dire qu'il n'y a aucune trace d'un Salomon historique, mais quand on regarde la manière dont l'histoire s'est construite, donc nous savons plutôt des textes qui datent du 7e fin 8e si vous voulez, mais plutôt 7e siècle avant l'ère chrétienne. Et ça commence en fait déjà de manière compliquée. L'histoire de Salomon au trône, ça il faut que vous, si vous avez le temps, vous relisez les deux premiers chapitres du premier livre des rois. Là aussi on voit que c'est un récit qui a des parallèles avec des textes assyriens, notamment avec une inscription ou un texte d'Assarhaddon qu'on appelle souvent l'apologie d'Assarhaddon, qui en fait accède au trône avec l'aide de sa mère, un peu comme Salomon va accéder au trône avec l'aide de sa mère. Dans ce texte, en fait, il y a deux niveaux, deux strates, un roi, un. Dans le premier strate, il n'y a pas encore, si vous connaissez l'histoire, que David est tellement fatigué qu'on essaie de le réchauffer avec une jeune fille. Dans le récit ancien, on n'a pas ça. On a simplement qu'Adonias se leva en disant « c'est moi qui sera roi, il se procurera un char, etc. » Jamais de sa vie, durant sa père ne l'avait peiné, il lui a fait du reproche en lui disant « pourquoi agis-tu ainsi ?» En outre, il était très beau. Maintenant, vous savez, quand on dit « il était très beau », voilà, un roi potentiel, et elle, donc sa mère, l'avait enfanté après Absalom. Donc ça veut dire quoi? Donc vous vous souvenez, Absalom a été tué. Donc c'est le prochain dans la lignée chronologique. Donc c'est normal que c'est lui qui devient le successeur de David. Hein? Et ces paroles donc arrivaient auprès de Joab, Abiata le prêtre, qui donna l'appui à Adonias. Et après, il y a un autre groupe, Sadoc le prêtre, Benaïa le fils de Jehoiada, l'autre général, Nathan le prophète, et d'autres ne se rallient pas à Adonias. Donc en fait, Adonias ici, dans ce récit, est présenté comme le prochain dauphin. Et finalement, c'est un peu normal qu'il se positionne comme le prochain roi. Donc il n'y a a priori rien à dire. Et c'est là, en fait, qu'intervient Nathan auprès de David. Donc là, je vous donne le récit ancien. Hein. Dans le récit ancien, donc, Nathan dit « Oh, mon roi, mon seigneur, le roi ». Donc on ne sait pas si David est déjà un peu sénile ou pas, mais ça vient seulement parce qu'on a rajouté les premiers versets. Là, Nathan dit simplement « Est-ce que, mon seigneur le roi, tu as dit, Adonias deviendra roi après moi, il siégera sur mon trône ?» Car il est descendu aujourd'hui, il a sacrifié des taureaux, etc. Les chefs de l'armée sont avec lui, etc. Et est-ce que, si c'est ça ce que tu as décidé, tu n'as pas fait savoir à ton serviteur qui siégera sur ton trône après toi? Et le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba, celle-ci vient devant le roi, et se tint debout devant le roi. Alors le roi fit ce sermon, par la vie de Yahvé, qui m'a libéré de toute détresse, c'est Salomon ton fils qui deviendra roi après moi, c'est lui qui siégera sur mon trône à ma place. » Et donc, dans le récit premier, c'est simplement l'intervention de Nathan qui convainc David qu'Adonias ne devrait pas être son successeur. Il fait appeler Bathsheba, puisque c'est elle la mère de son successeur, et donc installe en fait son fils Salomon comme successeur. Donc on n'a pas encore toute l'intrigue. Donc le roi en fait dit il faut maintenant mettre en place la cérémonie d'onction avec Sadoc, Nathan. Donc on voit qu'il y a en effet deux parties. Puis l'onction de Salomon est faite, il est acclamé par le peuple. Adonias est informé, il a peur des sanctions de Salomon. Et Salomon au début se montre magnanime, dit ah, il ne t'arrivera rien. Mais t'as qu'à attendre, puisqu'il va aussi se faire massacrer. Donc, ça, c'est la première histoire. Donc, c'est encore relativement soft, et ça correspond assez bien à ce qu'on appelle l'apologie d'Assa Hardon, puisque c'est un peu la même chose. Les princes aînés sous la conduite du dauphin s'opposent au choix d'Assa Hardon qui veut mettre au trône Sennacherib. Que Sennacherib, son père, veut mettre au trône et qui contrevient, comme dans l'histoire d'un roi, à l'ordre chronologique des naissances de fils. Donc Assa Hardon dit aussi « De mes frères aînés, j'étais le cadet. Sur l'ordre d'Ashur de Chine, il y a tous les dieux qui interviennent. Le père qui m'a engendré éleva dûment ma tête parmi l'ensemble des frères. » Et donc des luttes comme un roi 1. Arda Moussouli trouve appui auprès des hauts fonctionnaires de la cour, comme c'est le cas pour Adonias. Mes frères, ils abandonnent à la volonté divine, firent confiance à la supériorité de leurs actes et complotaient méchamment. Comme Salomon, Assa Hardon est soutenu par une partie du clergé et le pouvoir militaire, Sennacherib rédige un serment, un traité pour garantir l'ascension d'Assa Hardon au trône. Comme David, en 1 roi 1, s'est également engagé par un serment qu'il prononce devant Yahvé. Il fait prêter serment pour protéger mon droit de succession, dit le texte assyrien. Assa Hardon, devenu roi, fait grâce à ses frères, comme le fait d'abord Salomon avec Adonias, mais ensuite aussi, il le fait supprimer. Et donc, on pourra dire que dans ce récit ancien, c'est quand même très proche. Et Salomon, peut-être cette histoire de la succession de Salomon est construite peut-être en connaissance de ce qu'on appelle l'apologie d'Assa Ardan. Après, il y a une révision de cette première histoire, une révision où, en effet, ça devient vraiment une intrigue de cour, où David est totalement... il ne dirige plus rien. Il est totalement dépassé par les événements. Ça commence avec cet ajout des versets 1 à 4, hein, où on a en effet un David qui est tellement fatigué, donc on lui met cette jeune fille, Avishag de Shunem, dans le lit, mais ça ne marche pas. Et donc, elle est la plus belle des filles, un peu comme Bathsheba était la plus belle des femmes. Donc, il y a une mise en parallèle quand même assez intéressante entre Bathsheba et Avishag. Mais David n'est plus du tout excité par cette beauté. Et évidemment, dans le Proche-Orient ancien, l'impotence sexuelle d'un roi, c'est un signe qu'il va partir. Hein ? Et souvenez-vous, peut-être on ne l'a pas dit en détail, mais lorsque Absalom se révolte contre son père, qu'est-ce qu'il fait ? Il couche avec tout le harem de son père, exactement. Donc pour dire, en effet, c'est lui maintenant le roi légitime. Donc on raconte cette histoire d'un David qui maîtrise plus rien. Et là, maintenant, on a cette idée, en fait, d'une intrigue qui Nathan prépare à Bathsheba. Donc là, maintenant, dans le récit ancien, Salomon arrive au trône parce que David fait un serment en disant « Je jure que c'est Salomon qui deviendra mon successeur ». Dans le rajout que vous avez ici, l'idée, c'est qu'on va faire croire à David qui, jadis, il avait fait un serment en faveur de David. Il est tellement, il ne sait plus rien. Donc, tu as jadis juré que ton fils Salomon te succédera. Et David dit, si je le jurais, je le jure, et etc. Et donc là, on a en effet quelque chose qu'on peut comparer avec Isaac, qui est aussi un peu vieux et à moitié aveugle, qui se fait manipuler par Jacob et sa mère. Donc, c'est tout à fait comparable. Donc, là aussi, contrairement au premier récit, on a donc l'idée aussi que Bathsheba prétend que Adonias est déjà devenu roi, alors que dans le récit ancien, il a juste en effet rassemblé ses soutiens sans se mettre roi, mais simplement pour dire le prochain roi, ce sera moi. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc David, dans ce récit ancien, confirme ensuite le serment. Et dans ce deuxième récit, Salomon arrive au trône quand même dans des contextes assez scabreuses. Et après, on n'a plus le temps de regarder ça. Après, il va en effet exécuter tous ceux qui le gênent. Adonias, Abiatar, il a la chance, il va juste être exilé. Joab va être exécuté, Shimei également. Et c'est encadré par ce refrain: Salomon s'assit sur le trône de David et sa royauté s'affermit considérablement. Voilà. Donc, on voit comment ils arrivent, en fait. Du coup, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a raconté l'histoire comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on a raconté comme ça ? Dans les textes actuels, Salomon apparaît, une fois qu'il est au trône, comme un despote, en fait. Yahvé apparaît jamais. Donc un peu comme dans l'histoire de David et Bathsheba, donc c'est presque un peu l'accomplissement de l'histoire de David et Bathsheba d'une certaine manière. Donc oui, est-ce que ça plaît à Yahvé ou pas ? Le narrateur ne nous le dit pas. Dans d'autres textes, le narrateur nous dit souvent ça déplaît à Yahvé, ça plaît à Yahvé. Là, on n'en sait rien. Je pense que les derniers rédacteurs voulaient insister sur le côté un peu profane de l'ascension de Salomon au trône. On a peut-être une première strate qui suit l'histoire de la révolte d'Absalom, où c'est un conflit entre Adonias et Salomon. Nathan et Bathsheba convainquent David de proclamer Salomon comme successeur. Hein ? Et ensuite, on a revu cette strate avec un discours qu'il faut, alors on n'a pas eu le temps de vous le montrer, un discours qu'il faut toujours respecter, les commandements de Moïse, etc. Et ensuite, d'autres strates qui, en fait, insistent sur le côté l'intrigue, et on ajoute la mise à mort, justement, notamment d'Adonias, l'exil d'Abodia. Donc c'est peut-être, en effet, des ajouts assez tardifs, anti-monarchiques, qui disent, voilà, vous construisez un Salomon idéal, mais on va vous raconter comment il est arrivé au pouvoir. Et ce n'était pas si drôle que ça. Hein. Voilà, donc on va s'arrêter là pour faire une petite pause. Donc Salomon, tout au long de son histoire, il va changer plusieurs fois de personnages. L'année prochaine, je vais vous parler un peu du temple, etc. Parce qu'on va continuer avec la royauté. Il change plusieurs fois de personnages. D'abord, d'un roi calqué sur le modèle des grands rois assyriens, il devient un personnage ambigu, inaugurant déjà le déclin de la monarchie et la scission de son empire en deux royaumes. Après, dans d'autres textes, notamment avec la reine de Saba, le jugement de Salomon, il retrouve quand même sa gloire un peu d'un roi de mille et une nuits, d'une certaine manière, hein, qui a surtout influencé la réception de ce personnage dans le judaïsme, aussi dans le christianisme, mais aussi beaucoup dans la franc-maçonnerie. Donc Salomon, pour les francs-maçons, c'est une figure très très importante aussi comme constructeur du temple, etc. Et je vous dis quand même un mot pourquoi l'arche est arrivée en Éthiopie et après on termine. Donc vous savez que, non pas dans le livre des rois, dans le livre des rois, il y a juste la reine de Saba qui vient voir Salomon. Mais c'est pas trop ce qu'ils font les deux. Là, c'est, voilà, ça reste ouvert. Après, cette histoire qui se trouve en fait dans un texte éthiopien du Moyen-Âge, donc le Kevra Negast, le livre de la gloire des rois, ces gens, souvent, c'est quand même des bons observateurs. Parce que, une fois que Salomon a fait entrer l'arche dans le temple, on n'entend plus jamais parler. Après, justement, on cherche l'arche un peu partout. Mais une fois qu'on arrive, l'arche est dans le temple, elle n'est plus ressortie, on ne dit rien au moment où les Babyloniens vont s'emparer du temple, vont le détruire, est-ce que l'arche a été détruite, etc. On n'en sait rien. Et d'où l'idée de cette tradition que l'arche, en fait, n'est pas restée à Jérusalem. Que l'arche est partie en Éthiopie. Et pourquoi l'arche est partie en Éthiopie ? Parce que, la reine de Saba et le roi Salomon ne se sont pas seulement posé des questions et des énigmes, ils se sont aussi rapprochés autrement. Et donc, la reine de Saba, quand elle est partie en Éthiopie, alors là, donc, il faut sous-entendre que l'Éthiopie est le pays de Saba, ce qui plutôt, aujourd'hui, on est d'accord plutôt de dire sur le Yémen, mais ça, ce n'est pas important. Donc, elle est partie enceinte, elle a mis au monde un fils, Ménélik, qui finalement, quand il était plus jeune, un peu plus grand, pardon, a rendu visite à son père Salomon, qui voulait en fait en faire son successeur. Mais Ménélik a dit non, il faut que je retrouve ma mère. Et Salomon dit, tu retournes, mais je vais te donner des jeunes gens qui vont t'accompagner. Et parmi ces jeunes gens, il y a un fils d'un prêtre qui a dit, on ne va pas partir de Jérusalem pour s'installer en Éthiopie sans l'arche. Et donc, il a fait une copie de l'arche qu'il a posée dans le temple, et la vraie arche, elle est partie en Éthiopie, où elle se trouve jusqu'à aujourd'hui, croyez-le ou pas. Voilà, donc on va terminer ce cours maintenant, on va faire une petite pause, et celles et ceux qui peuvent rester, il y a le séminaire.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.